Elle est aussi jolie qu'une boîte de crayons de couleur. Blottie en contrebas d'une volée d'escalier Montmartre 3, pas très loin du marché Saint-Pierre, la boutique à l'enseigne du Monde en couleur est l'un des précurseurs du commerce équitable à Paris. Le récit sans bafouiller de son propriétaire, nœud papillon et souvenir de l'audiovisuel garanti.
Mais bon, parce que j'ai quand même fait 10 ans de journalisme radio. Bon.
Vous avez fait 10 ans de...
Ça y est, ça enregistre déjà là.
Ben oui.
Il y a du son là, mais je rêve. Oui, non, je suis un retraité moi. J'ai fait beaucoup d'autres choses avant d'être ici. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi tout.
Vous avez fait de la radio et puis vous avez fait de la télévision?
Pour une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle Antenne 2. Mais il y a prescription, hein. J'étais jeune et barbu.
C'était la belle époque.
Oui, je me rappelle qu'on enregistrait le mercredi matin, et c'était au but de Chaumont. Et c'était toute une affaire, parce que c'était une émission qui n'avait rien à voir avec ce qui avait eu lieu la nuit précédente, qui s'appelait Ciel Montmardi, une émission de Christophe de Chavannes. Parfois, il fallait essuyer un peu les petits Suisses sur les murs, enfin, c'était un peu compliqué.
Aujourd'hui, on est au Monde en couleur. C'est une boutique que vous tenez depuis un certain temps.
Moi, je suis arrivé ici en 1997, et j'ai repris cette affaire donc à des amis qui avaient fondé cette boutique sous le nom de Andine en 1988. C'était un peu le showroom de la société Andine, qui existe toujours, qui à l'époque était spécialisé dans l'importation d'artisanat de commerce équitable d'Amérique latine. Moi, j'ai repris l'affaire à mon nom propre en 1997.
Comment est-ce qu'on a l'idée de passer de la télévision au commerce équitable?
Par amour, j'étais parti en Équateur et par besoin, j'ai travaillé pour Andine pendant 2 ans, donc sur le terrain. J'ai fait du contrôle qualité en Équateur et surtout en Colombie, puisque c'était surtout la Colombie sur laquelle ils travaillaient à l'époque. Et ils avaient un correspondant à Bogota qui était, pour tout dire, un peu trouillard. Moi, j'étais un peu inconscient, donc ça fait une moyenne. J'allais beaucoup dans le sud de la Colombie, et dans le nord d'ailleurs, en fait. Le copain Alvaro, lui, il sortait pas trop de Bogota, où il y avait quand même quelques fournisseurs à voir. Hein, mais c'est pour ça que j'étais souvent en Colombie. Et puis donc après, j'ai attrapé le palu. Bon, je vous la fais courte, hein, j'étais rapatrié. Et je savais pas quoi faire, et je me suis retrouvé... Avec l'envie. Un jour, j'ai fait un dépannage pour Andine. J'ai replacé une vendeuse pendant 3 mois. Ça m'a amusé. Bon, ils m'ont dit, si tu veux, tu reprends l'affaire. On s'est mis d'accord sur des conditions avantageuses. Et ça fait presque 14 ans que ça dure.
Où mène le journalisme quand même? L'idée, en fait, c'est d'en sortir correctement et de s'engager à un moment donné.
On a quand même beaucoup communiqué. La première fois que je suis venu dans cette boutique, c'était donc en visite. J'étais à l'époque équatorien d'adoption. Et donc, je suis venu en 1992. Et c'était vraiment dans l'évangélisation. Il fallait vraiment expliquer à chaque personne qui rentrait dans le magasin ce qu'était le fair trade, le commerce équitable. C'était vraiment pas du tout connu. C'était pas les premiers. Il y avait déjà, pas très loin d'ici d'ailleurs, en bas de la rue Rochechouart, la boutique Artisan du Monde qui existait depuis 73. Mais c'est quand même des gens qui étaient bien seuls à l'époque. Donc, moi, quand j'ai pris l'affaire en 97, il y avait encore beaucoup de messages à transmettre, et c'est dans ce sens où j'étais encore un peu médiateur.
La boutique Artisan du Monde, qui est rue Rochechouart, sont vraiment les précurseurs, mais vous aussi, vous faites partie des anciens qui ont dû expliquer aux gens ce qu'était le commerce équitable.
Je vais dire à la louche, dans les années 94-95, il y a eu un grand article dans Le Monde, qui était centré sur Max Avelard, et sur le personnage historique de Max Avelard, et puis sur ce que signifie le label aujourd'hui. C'était vraiment, j'allais dire de l'hébreu, non, parce qu'il y a des gens qui parlent hébreu, un langage tout nouveau pour beaucoup de monde.
On n'est pas loin du marché Saint-Pierre, c'est-à-dire le royaume des coupons de tissu, et puis en contrebas de tous ces escaliers typiques de Montmartre. Est-ce que les touristes viennent?
Oui. Ici, dans cette boutique, on a ce mélange assez étonnant, des clients qui sont attirés par le quartier des tissus, ça va des couturiers aux accessoiristes de la télévision, enfin je veux dire, c'est très varié, mais ce sont des gens qui viennent régulièrement, donc j'ai le bonheur de figurer pour certains d'entre eux sur leur parcours. Et puis alors, il y a évidemment des gens qui viennent pour la basilique, pour la butte Montmartre, pour la place du Tertre. Le hasard de la promenade fait qu'ils passent devant ma boutique et ils ont envie d'y rentrer. C'est pour ça que les portes sont toujours grandes ouvertes. Puis il y a aussi, évidemment, et ça c'est très important pour un commerçant, il y a des gens qui habitent dans le quartier. C'est un quartier très peuplé. Vous poussez une porte et vous apercevez qu'il y a 2 cours, 3 cours. Les appartements sont petits. Ça suppose donc une forte densité de population. Ça suppose aussi une grosse rotation. Parce que dès qu'il y a un mariage ou un enfant, automatiquement, les gens déménagent. Donc, je suis toujours en conquête.
Et je certifie que les logements sont petits.
Oui, mais ça veut dire aussi que je ne m'assois pas trop sur une situation... Bon, de toute façon, c'est jamais gagné, évidemment. C'est un peu comme spectacle. Je veux dire, tous les matins, on lève le rideau et on espère que le public va venir. En fait, le public le plus fidèle, c'est celui qui vient pour les tissus. Parce qu'il peut venir d'Albi ou du 14e arrondissement ou de la plaine Saint-Denis, où il y a d'ailleurs beaucoup de studios de télé maintenant. Mais il revient régulièrement, celui-là. Mais par contre, évidemment, les touristes, on les revoit rarement. Ça arrive, malgré tout, mais au bout de 10 ans. Ça arrive, hein. J'ai vu les enfants de gens que j'avais, qui me racontent des anecdotes. Et puis, bien sûr, les gens du quartier qui sont fidèles, mais il y en a très peu qui le restent parce que, je vous dis, ils sont obligés souvent de déménager.
Ce que vous leur vendez, il y a un petit peu d'alimentation, très peu. Il y a des beaux objets, ça c'est plaisant parce que justement, il n'y a pas de misérabilisme. Vous tentez.
Oui, c'est quand même plus agréable à vendre. Disons que moi, je me suis fait plusieurs critères. Au début, c'est la nécessité. J'ai travaillé d'abord avec le stock d'Andine parce qu'ils ont eu la bonté de me laisser le stock en dépôt-vente pendant un an, ce qui m'a évidemment évité de me creuser trop la tête pour remplir la boutique. Et puis, en même temps, j'avais pas d'investissement à faire, donc c'était agréable. J'ai trouvé deux ou trois autres copains dans le même esprit. Et puis, petit à petit, il a fallu évidemment créer un stock et trouver des fournisseurs. Et là, j'ai travaillé uniquement dans le cadre du commerce équitable, mais uniquement au feeling. C'est-à-dire que je me suis pas senti, n'étant pas un vendeur donc de vocation ni de formation, je me suis pas senti d'aller vendre des choses que je n'aimerais pas. Même si on me disait que ça avait un fort potentiel commercial, que telle chose allait plaire, ça m'est arrivé de le faire, mais je l'ai toujours regretté. Ça n'a jamais bien marché parce que je ne sais pas vendre quelque chose que je n'aime pas. Donc les choses que vous trouvez jolies, bah, je vous remercie du compliment, mais c'est tout simplement des choses que j'aime.
Vous avez des crèches à Noël qui sont absolument ravissantes, vous avez des jouets pour les enfants, vous avez des objets de décoration, tout ce commerce équitable, mais c'est vrai que c'est attirant.
J'ai l'impression d'être dans un petit théâtre, quoi. Il y a une mise en scène qui tient compte des arrivages et qui tient compte des saisons, autant que possible. Vous voyez, là, je suis en train de déballer, au moment où on parle, je suis en train de déballer des trousses parce que c'est la rentrée scolaire. Voilà, j'ai eu des arrivages de Bolivie, j'ai des trousses, des petits sacs. Bon, ben ça, évidemment, c'est plus facile à vendre au mois de septembre qu'au mois d'avril. Les trousses d'écoliers. En même temps, bon ben, c'est aussi parfois des opportunités, c'est-à-dire qu'on peut faire une rencontre qui m'amène à recevoir de la marchandise totalement décalée par rapport aux saisons ou aux besoins et qui s'avère quand même de bonnes affaires. Parce que faut pas oublier une chose, c'est pas parce qu'on est dans le commerce équitable que j'ai pas honte de mon métier, je suis là pour gagner ma vie. Donc contrairement justement à nos amis d'Artisans du Monde dont on parlait tout à l'heure, qui ont 170 boutiques et peut-être 10 ou 12 salariés, pas davantage, ici il n'y a pas de bénévolat.
Vous avez votre avis sur la question, sur le bénévolat qui se développe parfois à outrance?
Je considère que ce n'est pas équitable.
Nous sommes bien d'accord. Il y a des pays avec lesquels vous avez des liens privilégiés?
Oui. Bien. Moi, je travaille beaucoup avec l'Europe centrale parce que j'ai des origines familiales dans cette région et bon, ça a un fort potentiel. Alors, il n'y a pas de filière de commerce équitable qui existe. Alors, on travaille avec des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, que ce soit sur la qualité des produits, sur les conditions dans lesquelles ils le produisent et dans lesquelles il n'y a pas évidemment d'exploitation des enfants, des choses comme ça. Sinon, par ailleurs, bon, ben, moi, mes relations personnelles, ça va être évidemment sur l'Amérique latine, ça va être Madagascar, le Vietnam et Haïti. Cette année, bien sûr, Haïti est le grand absent, pour des raisons que l'on sait, bien sûr.
Est-ce que vous ne regrettez pas le monde de la télévision?
Ah, pas du tout. Ça se renouvelle très vite, hein, le cheptel dans ce domaine.
Oui, il est périssable, il n'est pas durable, c'est terrible. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée qui sonne à chaque fois qu'on entre chez vous?
Ah, ça, c'est un souvenir de vacances. C'est ma femme qui m'a ramené, il y a quelques années, une petite cigale dans Saint-Raphaël. On a trouvé ça drôle de mettre ça dans une boutique montmartroise. Et effectivement, ça fait sourire les gens. Et je trouve que c'est plus sympathique qu'une sonnette. Parce qu'il faut vous dire que moi, je suis extrêmement distrait. Donc si je suis en train de faire ma comptabilité ou en train de ranger quelque chose dans l'arrière-boutique, un quart entier de touristes japonais peut rentrer dans le magasin sans que je m'en aperçoive. La cigale, ça m'alerte un peu quand même.
Est-ce qu'il y a des objets que vous vendez mieux que d'autres?
Non, là c'est... En fait, c'est plus lié aux saisons. Par exemple, c'est vrai qu'en décembre, on va vendre beaucoup de crèches. En janvier, février, on va vendre des ponchos du Pérou ou des châles de la Russie. Peut-être, je dirais, au niveau de la régularité plus que de la quantité. Mais en tous les cas, la régularité, c'est-à-dire presque chaque jour, je vends des bijoux de Pologne. En ambre, bien sûr, mais aussi en onyx et en pierre de lune. Cet été, par exemple, ce que j'ai le plus vendu en volume, parce que c'est pas un gros chiffre d'affaires, ce sont les libellules équilibristes du Vietnam.
Les libellules équilibristes du Vietnam.
Ça, c'est une source de Solidar Monde, qui est la centrale d'achat des artisans du monde, qui est à Vitry. Donc, c'est un produit que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc, ce sont des petites libellules en bambou qui tiennent sur le bout du doigt. Ça coûte pas grand chose à faire, ça coûte pas grand chose aux clients pour l'acheter, mais on en vend des centaines. Ça, oui, vraiment beaucoup.
Et puis alors, vous avez un petit objet que j'aime beaucoup, ce sont les limes à ongles.
C'est une écaille de poisson, et c'est un recyclage que j'ai découvert un peu par hasard à Belém il y a très très longtemps, dans le nord-est du Brésil. C'est un poisson qui est d'eau douce, un très gros poisson d'eau douce que les Indiens mangent. Et à l'époque, donc, je m'occupais de poteries, les poteries marajo, donc pour Andine toujours. Donc j'ai découvert que les Indiens marajo utilisaient ces limes à ongles pour faire ce qu'ils appellent le courrier de la forêt ou quelque chose comme ça. Enfin, une espèce de mobile très impressionnant avec un son extrêmement bizarre. À base de ces écailles, ils m'ont montré que c'était extrêmement abrasif et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des Brésiliens connaissent cet article-là, donc comme limão. Et maintenant, j'ai des artisans qui les utilisent aussi pour faire des boucles d'oreilles parce qu'on peut les teinter, les découper. C'est très solide. Pour la petite histoire, et ça nous ramène à la télévision, un jour, j'ai eu l'occasion d'en vendre des centaines au Guignol de l'Info, là, les marionnettes de Canal+, qui cherchaient des articles solides pour faire des colliers style coquillage, qu'ils envoyaient leurs hommes politiques de temps en temps dans les îles. Et donc, les coquillages, les vrais, c'est très très fragile. Hein. C'est une émission qui passe le soir sur Canal+, en direct. Donc, les accessoires, ça vole parfois très très vite. Et donc, ils ont travaillé avec ces limas ongles, enfin ces écailles de poisson. C'est, comme c'est très solide, ils ont beaucoup apprécié, ils en ont acheté beaucoup.